Amen. Je vais partir avec une illustration un matin simple pour aller dans le message. Depuis quelque temps, je me fais coacher pas mal à travers de bien des choses, à travers la parole où on remet les choses en ordre. Vous savez, si vous voulez qu'une automobile aille bien, il faut l'entretenir. Parce que c'est vrai. Changement d'huile, changement de pneus, changement de frein, changement. Donc, il faut, si on veut partir, ça prend une bonne batterie. Est-ce que c'est vrai? Moi, cet hiver, la mienne était fatiguée, puis j'ai voulu que j'appelle un garage parce que ma batterie n'a pas voulu partir. Donc, au plus, je mette une batterie neuve. Donc, il faut entretenir l'auto. Mais aussi, bibliquement, il faut entretenir notre cœur. Alléluia! J'aimerais parler, c'est un sujet un matin, vous avez sûrement entendu, mais on va juste reviser certaines choses. Le titre du message ce matin, c'est « Tu as entendu, es-tu prêt? » Vous savez, nous vivons des événements présentement que tout shake de bord en bord, de partout sur la planète. Il n'y a rien qui va. On va être honnête, là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de rassurant présentement. Donc, ce matin, je regardais ça, je réfléchissais, je disais « Seigneur, c'est quoi qu'on parle? » Donc, la petite voix me dit « Tu as entendu, es-tu prêt? » 1 Jean, chapitre 3 et verset 2. On va lire ça ensemble. Jean, 1 Jean, chapitre 3 et verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Seigneur, on vient devant toi ce matin, c'est ta parole. Seigneur, je te prie que ce message, Seigneur, soit un message d'actualité présentement. Seigneur, je te prie que c'est ta parole qui est enseignée. Et Père, on veut prendre conseil avec la parole. Seigneur, on veut être instruit par ta parole. On veut marcher avec la parole, puis on veut être dirigé par ta parole. Donc, Seigneur, aide-moi et Seigneur, que la parole soit reçue, Seigneur, afin qu'elle puisse nous faire grandir avec toi. Père, bénis le tout dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. J'aimerais dire, avant de commencer, que tous ceux qui croient à la parole de Dieu doivent croire aussi à la seconde venue de Jésus. Donc, déjà, l'Église primitive du Nouveau Testament, les chrétiens vivaient déjà dans l'attente du retour de Jésus-Christ et qu'il pouvait revenir même en tout temps. Et souvenez-vous de l'ascension de Jésus-Christ quand les apôtres regardaient Jésus monter vers le ciel, selon Actes, verset 1:11, il dit « C'est Jésus que vous avez vu partir, qui monte dans le ciel, il reviendra de la même manière. » Donc, Jean est en train de nous dire, Jean ne fait pas exception qu'il croit au retour de Jésus. Jean parle ici de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas encore manifesté, mais nous devons garder l'espérance en lui qu'il revient. Dites-moi un grand amen. J'ai espérance qu'il va revenir. Donc, et Jean nous dit, si nous avons cette espérance, il faut se purifier comme lui-même est pur. Vous savez, le jour du Seigneur est proche. Et au son de la trompette, on sait également qu'on va aller rejoindre le Seigneur. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 et au verset 17. « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, Paul donne des détails importants pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ, parce que l'Église de Corinthe, pas de Thessaloniciens, c'est une Église qui était persécutée. Et Paul, dans son deuxième voyage, a passé, donc il a commencé à enseigner une jeune Église. À cause de la persécution, Paul est parti de Thessalonique. Et maintenant, Timothée a été, en fait, un voyage, a été se renseigner comment l'Église allait, Paul lui avait demandé, et il y a eu des questions qui ont sorti face aux Thessaloniciens. Il disait, ceux qui sont morts, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Ça, c'est le fond, c'est le contexte. Et nous savons qu'à notre mort physique, l'enfant né de nouveau, qui est vraiment né de nouveau, nous savons que notre esprit va entrer dans la présence de Dieu. Et que notre corps va se décomposer d'une façon ou d'une autre, soit brûlé, soit... Il va se décomposer. Mais notre esprit va rentrer dans la présence de Dieu, va rentrer dans le repos de Dieu. Ça va être quelque chose de merveilleux. Nous ne serons pas encore dans l'activité, mais dans le repos. Et quand la trompette va sonner, 1 Corinthiens 15, verset 52, « Les morts ressusciteront incorruptibles. » C'est-à-dire que notre corps, présentement, ne sera plus qu'est-ce qu'il est. À la résurrection, il ne sera plus corrompu. C'est-à-dire que ça va aller très rapidement également, dans un clin d'œil. Si nous mourons avant l'enlèvement de l'Église, notre corps va revenir à la vie, mais pas dans les mêmes conditions. Nous connaîtrons une transformation, nous allons connaître toute une cure. À la résurrection des morts, notre corps sera semblable à la résurrection physique de Jésus. La résurrection de notre corps possédera également, si vous le disiez, si vous faites l'étude de la parole de Dieu, vos corps auront des caractères similaires à notre corps quand nous étions sept ans. Il va y avoir une ressemblance. C'est tout écrit, ces choses-là. Il sera reconnaissable. On va se reconnaître. Quand Jésus a été transfiguré sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse, ont reconnu Élie. Et quand Jésus est ressuscité, les apôtres ont reconnu Jésus. Alléluia! Ils ont même mangé avec Jésus. Également, la résurrection des corps. Notre corps sera transformé dans un corps céleste adopté pour notre nouvelle cité céleste. Alléluia! Et 1 Corinthiens 15, 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. À la résurrection des morts, notre corps va ressusciter glorieux, incorruptible, parfait, non corrompu, non détérioré. Il sera libre de la corruption de la mort à cause de la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Ce sera un corps glorifié, un corps semblable à celui de Christ, un corps glorieux et lumineux. Alléluia. Ce sera un corps puissant qui ne sera pas soumis à la maladie, ni aux imperfections physiques de notre corps. Paul dit ensuite, nous les vivants, ça veut dire que vous êtes, si vous êtes vivant à l'événement de l'Église, on espère de le vivre. Donc, ensuite, 1 Thessaloniciens 4, 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, 1 Corinthiens 50, 15, 52, en un instant, juste à la fin de la ligne, et nous serons changés. Nous aussi, les vivants, serons changés. Paul nous dit, après les morts, nous les vivants, nous aussi, on va être transfigurés. Notre passage, nous passerons, je dirais, de la même transfiguration que ceux qui étaient morts en premier. Votre corps recevra également un nouveau corps identique à celui qu'ont reçu les morts ressuscités en premier. Ça veut dire que nous ne connaîtrons plus jamais la mort physique. Votre corps va être également transfiguré. C'est des bonnes nouvelles. Êtes-vous content? Alléluia! On sera vraiment capable de se payer ça, nous autres, là. On est d'accord avec ça? Donc, à partir de ce moment-là, il faut que le corps charnel soit changé. La réponse est simple parce que notre corps qui est là ne peut pas résister à la gloire de Dieu dans le ciel. Car dans le ciel, tout est pur, tout est saint, tout s'écrit gloire et gloire et gloire dans le ciel. Car tout où que Dieu habite, le péché n'habite pas. Donc, si on veut vivre dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il faut que nos corps soient transformés. Comme le ciel glorifie Dieu dans toute sa sainteté, notre corps doit être glorifié. Et c'est ça que Paul enseigne. 1 Corinthiens 15, verset 53, Car il faut, 53-54, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie. Dans la victoire. La victoire de qui? La victoire de Christ. Ces nouveaux corps, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'honte à cause du péché, il n'y aura plus de faiblesse, plus de tentation, il n'y aura plus de limitation du haut temps. Dites-moi pas, ce n'est pas une bonne nouvelle. On peut donner une grosse gloire, une grosse main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia! C'est quelque chose de glorieux qui nous attend. Nous pourrons dire dans ce moment-là, comme Jean nous dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons visiblement unis à Christ, amenés dans la maison du Père et unis avec nos bien-aimés décédés. Nous serons dans une joie et dans une paix éternelle au service de celui qui nous a rachetés. Alléluia! Donc, le péché et la mort ne nous toucheront plus. C'est ce que Jésus a dit, Jean 14, 13. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est la promesse. C'est la promesse de l'éternité avec Jésus-Christ. Nous serons épargnés de la colère à venir, de la tribulation de Daniel, parce que vous n'êtes pas destinés à la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse. C'est notre éternité qui est devant le Seigneur. Jean nous dit également que celui qui a cette espérance doit se purifier. Allô? Ça veut dire qu'il y a du changement qui doit se faire. Donc, on doit penser à se préparer. On ne sait pas quand ça va arriver. Jésus a dit qu'il va venir subitement. Matthieu 24, 44, « C'est pourquoi vous aussi... » Qu'est-ce qui est écrit? « Tenez-vous prêts... » Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez plus. Il faut être prêt, il faut être vigilant et il faut être ferme dans notre marche chrétienne. Nous devons être sérieux, alléluia, avec le Seigneur. Dis avec moi, il faut que je sois sérieux. Il faut que je sois sérieux. Mon salut, c'est quelque chose de sérieux. Si on est réellement en amour avec Jésus-Christ, nous allons nous séparer de l'Égypte. Nous séparer de la mentalité de l'Égypte, de la culture de l'Égypte. Nous ne sommes pas du même royaume. J'ai trouvé un super de beau texte, Hébreu, chapitre 11, versets 24 et 25. Écoutez bien. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Moïse, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, parce qu'il est élevé dans la culture de l'Égypte, prince d'Égypte, l'Égypte est en lui. Mais il a refusé, maintenant, d'être appelé fils de Pharaon, fille de Pharaon. Moïse a coupé les cordons avec son ancienne vie. Et c'est tout un job, ça. Soyez honnête, là. Pas facile de couper des cordons, hein? Mais Moïse a renoncé à la gloire égyptienne, au vice, à la mondanité de ce monde, aimant mieux être maltraité avec les siens et d'avoir part à la promesse de Dieu plutôt que de vivre dans un temps de jouissance avec le péché. Nous sommes plus de l'Égypte. L'homme de Dieu, Moïse, a préféré retrouver le peuple de Dieu et d'entrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que c'est votre désir ce matin de dire, Seigneur, ma priorité, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Les choses de ce monde n'ont rien pour moi. Je sais que je suis fatiguant avec ça. Mais c'est la Bible qui enseigne ça, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, alléluia, de l'Ancien au Nouveau Testament. La Bible nous dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Vivons dans cette mentalité que Jésus revient. 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. L'élection, le jour que vous avez accepté Jésus, il vous a adopté, il vous a greffé à l'olivier. Regardez bien 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, c'est-à-dire, je vous encourage fortement, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. C'est pas moi qui le dis. Pierre nous le dit. Donc, un encouragement à délaisser les convoitises charnelles. Nous sommes passagers, étrangers et voyageurs. Tu t'es déjà arrêté à ça? Juste de passage. On sait qu'après 80 ans, il ne reste plus grand temps. Hein? Moi, je dis ça souvent, mais non, en 70 ans, là, je dis, je pense qu'on a fait un méchant bout, là. On est plus proche de la fin, hein? Est-ce que c'est vrai? Nous sommes ici pour très peu de temps. On va partir. Donc, il faut se préparer pour notre éternité. Et je trouve ça de valeur. Souvent, qu'on ne prend pas ça au sérieux. On doit se concentrer vraiment sur le royaume de Dieu. L'éternité avec Jésus vaut mieux que l'éternité dans le lac de feu. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Paul avait cette espérance, alléluia, d'aller rejoindre son sauveur. Notre avenir est avec le Seigneur jusqu'au temps. On va partir, mais on va revenir. Parce que Jésus va revenir aussi, alléluia. Donc, il va régner, on va régner avec lui quand il va mettre le pied sur le mont des Oliviers. Mais en attendant, Romains 13, versets 11 et 12. « Cela n'importe autant plus que vous savez dans quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de ceux près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Paul sonne la trompette. Paul donne un avertissement ici. Paul dit, ceci importe d'autant plus que nous savons en quel temps que nous sommes. Puis je vais en parler dans quelques minutes. Le temps nous parle des signes des temps. Paul cite, c'est l'heure de sortir du dodo. C'est l'heure de sortir du sommeil spirituel. Le salut est plus près que lorsque nous avons cru. J'ai cru, mais là je me prépare. C'est l'heure du réveil. C'est le temps de mettre nos vies avec le Seigneur en règle. Alléluia! C'est le temps de revenir à la prière. C'est le temps de la consécration, d'avoir un cœur sincère avec Dieu. C'est le temps également de jeûner. L'Église ne nous jeûne pas assez. Vous allez me reprendre encore. Pas grave, je vais vous dire encore. Il faut apprendre à se délaisser et à venir au jeûne et à la prière. Luc 5:35, les jours viendront où d'où l'époux sera enlevé. Alors, jeûneront en ces jours-là. Je dirais que c'est l'heure de se débarrasser des choses de ce monde. Romains 13:12, la nuit est avancée. Le jour, la nuit est avancée. C'est-à-dire, on arrive à l'aurore. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Vous savez, quand on va partir, on ne va rien emporter. Vos maisons, vos autos, votre argent, tout va rester là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La seule chose qu'on va emporter, c'est vous devant le Seigneur. Et encore, comme ce n'est pas terminé, on aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Tout sera examiné, nos dons, nos talents, nos implications, tout sera examiné devant le cœur de Dieu. C'est le temps de la dernière préparation avant le grand départ céleste. Il dit, dépouillons-nous, comme un serpent, là, tu sais, sa vieille peau, là, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est le temps, je dis souvent avec Manon, c'est le temps de faire du ménage. Cette semaine, j'ai fait des choses qu'il fallait que je fasse. Ça fait longtemps que je traînais la patte. Tu sais, nos petits téléphones, Colin, on en met du temps dessus. Hein? Moi, cette semaine, j'ai tout flushé à Facebook. J'ai dit non, trop de temps avec ça. Avant de me coucher, je prenais une heure. Avant de me coucher, je dis, non, pas besoin de ça. Plus besoin de ces choses-là. Je fais du ménage. Il y a bien des démentir sur ça. Il y a bien d'ascrap, ces choses-là. À maison, j'en ai un parce que je suis obligé à certains niveaux. Mais sur mon téléphone, il n'y en a plus. Fait que quand je m'envoie, il n'y en a plus de Facebook. Là. Puis je suis tellement content. Tellement content. Fais du ménage, Serge. Fais du ménage dans ta vie. Seigneur, moins de moi et plus de toi. Je dois revêtir les armes de la lumière, d'adopter le principe de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'éternité avec Christ. Ça veut dire que je dois vivre différemment du monde, de son immoralité et de la philosophie trompeuse du monde. Toi, revêt les armes de la lumière. Revêt-toi de tout ce qui fait replendir, resplendir Jésus-Christ dans ta vie et dans le monde. Tu es un enfant de lumière et tu dois vivre comme un enfant de lumière. Tu n'es pas dans la noirceur, tu es dans la lumière. Sois fort, sois courageux, sois persévérant. Remplis-toi de l'huile fraîche dans notre vie. Vis pas avec de l'huile du passé, mais vis avec l'huile du présent que Dieu veut mettre dans ta vie présentement. Alléluia! Remplissons nos coupes. C'est le temps à la vigilance. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui ont tout manqué à cause de la vigilance. Qui ont eu de la paresse spirituelle. Ils n'ont pas veillé. Quand ils ont voulu retourner voir ceux qui étaient mariés, la porte était fermée. Le salut est plus près que jamais. La nuit est avancée. Le temps est proche. Le retour est proche. Matthieu 13, 35, 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou le coq, ou le matin, au chant du coq, craignez que vous vous trouviez endormi à son arrivée soudaine. Car je vous le dis à tous, veillez. C'est pas moi qui le dis. Jésus nous dit de veiller. Paul nous dit de veiller. C'est un ordre, c'est un impératif. Sois cette sentinelle. Va dans la chambre de prière. Aie ta Bible en main. Que ta vie soit animée d'une vie de l'Esprit. Alléluia. Veillez. Les choses s'en viennent. Peut-être ce petit matin, peut-être ça va être le jour, peut-être ça va être le soir, peut-être... On ne sait pas. Personne ne peut dire ici quand que ça va arriver. C'est pourquoi que nous sommes avertis. Et Paul nous donne des bons avertissements. Craignez que vous ne soyez pas endormis à son arrivée. Il faut être prêt. Je dirais, je le répète, Jésus a dit « veillez ». Vous savez, l'Apocalypse, l'horloge apocalyptique est proche. Et selon les commentateurs ou ceux qui sont dans l'eschatologie, au fond, là, 81% des prophéties bibliques sont réalisées. 81% s'est réalisé. Partir de la venue d'Israël, pays souverain, Israël en 48, la guerre des six jours. Encore aujourd'hui, le plan de la construction du temple est prêt. C'est une question de politique. C'est quelque chose qui va se réaliser. Il manque juste un accord politique. Tout est prêt. Le service, ça sert de ça. Les habillements, les ustensiles, même la vache rouge est prête pour faire le service quand ils vont ouvrir le temple pour faire le sacrifice. Tout est là. Tout est prêt. Et même également, les grandes religions majeures, musulmans, judaïstes, christianistes et catholiques, ils ont déjà fait une alliance entre eux. C'était passé il y a 3 ans. On n'a pas entendu parler beaucoup, mais si vous avez suivi les actualités, ils ont fait un pacte en disant que oui, il y a un seul Dieu, mais sans mentionner Jésus-Christ mort à la croix pour nos péchés, sans mentionner qu'il va ressusciter. Ils n'ont dit qu'ils ont un seul Dieu, mais ils ont refusé Jésus-Christ. Jésus va dire aux pharisiens, Matthieu 16, versets 2 et 3, Jésus leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez, discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Jésus reproche aux pharisiens de ne pas le reconnaître, premièrement. Il dit, « Vous savez discerner les temps. » Vous ne savez pas discerner les choses spirituelles. Je vous le dis honnêtement, là, si Jésus passera dans nos églises, je me demande s'il serait accepté. Même si Paul et Jacques passeraient dans nos églises, je me demande s'ils seraient acceptés. Vous me trouvez dur parfois, moi je suis poli à côté de ces gens-là. Leur ligne, savez-vous pourquoi? Parce que nous, on ne connaît pas la persécution. Eux vivaient dans la persécution. Eux vivaient dans les troubles. Eux, ils payaient de leur vie pour l'avancement de l'Évangile. Ils n'avaient pas peur de dire « consacre-toi » parce que tu ne sais pas quand tu vas crever. Nous, on prend ça à la légère. Tout est beau, tout est beau, tout est... On n'a pas l'aspect philosophique de ces premiers hommes qui ont souffert, qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ en mort en martyr. Comprenez-vous, on n'est pas dans la même mentalité que ces gens-là. Frères et sœurs, le temps est proche. Puis je vais aller encore plus loin. Il faut reconnaître les avertissements de Jésus. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps que nous sommes. Vous savez, la pensée de Paul, quand il a écrit cette lettre, Paul a décidé, décelé des signes de léthargie ou d'applaudissement spirituel pour les chrétiens de Rome. La ville de Rome offrait beaucoup de plaisirs charnels, beaucoup de distractions, Rome prenant soin de la chair en proposant d'abondance bien-être, de matériel, d'amusement terrestre et de toutes sortes de vices. Si bien que ceux-ci ont oublié le retour de Jésus. Donc, Paul est en train de dire que cette église s'est assouplie spirituellement. Et les plaisirs de la vie prenaient beaucoup plus de place que Jésus-Christ. Ils négligeaient qu'est-ce qui était de plus important, leur salut et leur consécration. Et Paul nous donne un avertissement de ne pas tomber dans la léthargie de l'état d'applaudissement, d'assouplissement spirituel. Comprenez-vous mieux le texte? C'est le fond du texte. Paul a cité, il dit « rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Il dit « sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles ». Matthieu 24, 36, « pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, je reviens, ni les gens des cieux, ni le Fils, mais le Père seul ». Jésus dit « tenez-vous prêts, vous ne connaissez pas l'heure, mais toi, sois à l'heure ». Allô? Mais toi, sois à l'heure. Nous voyons les signes des temps. Tout va en s'accélérant. Matthieu 24, Luc chapitre 21, nous parle des signes des temps. Mais une chose est certaine, tout va en accélérant présentement. Tous les signes des temps généraux indiqués dans le Nouveau Testament sont déjà produites et continuent à se produire. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tremblements de terre, là. Il y en avait dans le temps de Jésus. Regardez Pompéi et toutes ces affaires-là, quand on écoute les temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Puis un jour, dans Matthieu 24, Jésus sort du temple avec ses disciples, et il dit, et les disciples ont fait remarquer les belles structures, les belles constructions, et Jésus dit, ouais, c'est vrai que c'est beau, mais il dit, écoute bien, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre, tout va être détruit. Et les disciples vont demander la question, ils disent, quand ça va arriver, quels sont les signes des temps? Et à partir de Matthieu, chapitre 24, verset 14, Jésus va commencer à parler des commencements de la douleur. Jésus va parler premièrement de la séduction spirituelle, soit des faux messies, parce qu'il y a déjà des faux messies qui sont venus qu'on ne vit pas trop longtemps, les sectes religieuses, les fausses doctrines, les faux prophètes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et déjà, nous sommes pas mal dans ça, n'est-ce pas? Israël, Palestine, Cisjordanie, Moyen-Orient, la Russie, l'Ukraine, la Chine, Taïwan, l'Inde, avec d'autres pays qui sont en guerre, et bien d'autres guerres. La guerre commerciale qu'on est en train de vivre présentement, est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on vit ces choses-là? On les vit, là. Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des temps. Il y aura des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des volcans. On en voit ces choses-là. La famine, les virus qu'on vient de vivre là, en 2020, vous savez le nom, là, de toutes sortes de pestes, violence, à la hausse, persécution chrétienne. C'est déjà dans notre époque. Tout va en s'accélérant. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre sera refroidie. Cela, ça nous parle aussi des comportements immoraux. Depuis, je ne dirais pas d'année d'âge de chrétienté, depuis qu'on est au Seigneur, le péché sexuel a toujours été présent. La perversion sexuelle, Sodome et Gomorre, a toujours été présent. Autrefois, c'est caché, aujourd'hui, c'est ouvert. Hommes et hommes, femmes et femmes. Même aujourd'hui, il est transgenre. Que dire également de ceux qui se déguisent hommes et femmes? J'ai trouvé un texte pour vous, très intéressant, quand nous parlons des dracs, on ne dira pas plus loin, là. Deutéronome 25, 22, 5. Regardez bien, je trouve ça fantastique. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est écrit dans votre Bible. Écoutez bien, moi et Manon, peut-être vous, nous avons vu dans le ministère des épouses de pasteurs qui sont virées lesbiennes. Des ministres qu'on a connus, puis d'autres qui ont tombé dans le péché sexuel avec les membres de leur église. Des ministères imposants en cours de route, que j'ai vus en cours de route vers l'Europe, des pasteurs gays, qui étaient évangéliques, qui sont redevenus gays. Encore aujourd'hui, dans le milieu chrétien, coucher ensemble avec le mariage, la pornographie, l'adultère, la fornication, les jeunes. Je me souviens, une année, on avait été dans un camp, et puis... Il y avait eu toute une prédication du frère Hood, parce que pendant la prédication, les jeunes allaient coucher ensemble. On est sur un camp chrétien. Puis on a eu la surprise que quelques-uns ont tombé enceintes. Puis après ça, les jeunes ont dit « bye ». C'est dans le milieu chrétien. Le problème de la sexualité, c'est pas d'aujourd'hui. Et parce que l'iniquité sera accrue, un plus grand nombre va se refroidir. On peut comprendre quand Jésus nous dit ces choses-là, tout simplement parce que le péché, la désobéissance de la parole nous éloigne de la sainteté de Dieu. Tout ce que nous voyons va en empirant. Vous avez manqué d'un gros amen ici. Les signes des temps nous font dire que l'enlèvement de l'Église est proche. 24:13, Matthieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qu'est-ce qui est marqué? Sera sauvé. Celui qui va garder son cœur pur, son cœur droit, avec le Seigneur qui persévère jusqu'à la fin, sera sauvé. Et Jésus va dire, Matthieu 25, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » C'est des avertissements assez sévères. Si vous voulez me blâmer, blâmer la parole, le matin, pas moi, là. Aujourd'hui, nous sommes dans des grands temps de séduction. La ruse du diable, elle nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne de la vérité de Dieu. Satan est rusé et il se déguise en ange de lumière. 1 Timothée 4, verset 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Écoutez bien. En préparant, j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose. Premièrement, il faut revenir à la base. Revenir à la parole de Dieu. Si tu veux pas tomber dans le piège de la séduction et du mensonge, reviens à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous diriger. Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est pourquoi que nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Toi, tu peux dire bien des choses, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là de la Genèse jusqu'à la fin des temps. Lui, il est vérité. Et lui, il te dirige dans la vérité. Et oui, tu ne peux pas changer la vérité. Il veut t'emmener dans l'esprit de vérité. C'est dans notre esprit que Dieu, le Saint-Esprit, communique à mon esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vous tromper. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu menteur. Alléluia! Non seulement qu'il est Dieu, non seulement qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il voit tout, parce qu'il est aussi, il vient rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Son enfant, et comme enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu me parle dans mon esprit, dans mon homme nouveau, et rend témoignage à mon esprit pour que je puisse rester sur le bon chemin de la vérité et de rester dans la vérité. La Bible nous dit qu'il est saint, que la parole est sept fois épurée, qu'elle est oui, elle est amen. Et je peux recevoir la révélation. La raison est simple. C'est des textes que je vous sors souvent, puis je redis un matin. 1 Corinthiens 2, 12 et verset 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je peux connaître les choses qui viennent de Dieu. C'est bien écrit, hein? C'est bien écrit. Quand nous recevons la révélation, nous sommes non seulement dans la joie, mais dans une paix intérieure. Et la révélation me fait grandir. Donc, la raison, quand tu t'arrêtes, quand tu pries, quand tu songes, quand tu analyses, tu te formes et que tu examines attentivement la parole de Dieu, si tu fais ces choses-là, tu seras prêt au changement de ta vie. Tu ne seras pas juste prêt à l'argumentation, mais tu seras prêt au changement. Alors, on peut argumenter sur toutes sortes de choses. Mais quand l'esprit de vérité vient, ça tombe, ces choses-là. La révélation est là pour que tu deviennes solide dans ta vie, solide dans ta foi. Tu vas devenir inébranlable dans la vérité. Et quand les séductions veulent t'envahir, disons, 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Écoutez bien, si ta fondation est solide, tu vas pouvoir discerner du vrai et du faux, parce que le Saint-Esprit sera ton guide, et l'Esprit de vérité qui vient en toi va te faire discerner du vrai et du faux. Moi, je crois, c'est mes convictions, et c'est comme ça que je le vis. Quand j'écoute ou des gars qu'on ne connaît pas, peu importe, quand ça ne va pas dans les bonnes directions, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Ça frappe. Il dit, Serge, sois vigilant. Regarde. Regarde. Il frappe à la porte du cœur. Il t'emmène dans la vérité. Les versets, c'est simple, les versets montent. Les versets montent vers toi. Si tu te nourris de la parole de Dieu, les versets vont monter. Si tu es dans la parole va faire son effet. Donc, le Seigneur veut te redresser. Il dit, attention, alléluia. On est dans des temps de séduction. Mais l'esprit qui vient en moi va contre le mensonge. J'aimerais vous donner une autre illustration de mensonge. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrit la deuxième lettre aux Thessaloniciens, lisons ensemble, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, « Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous prions, frères, ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était là. » Et dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Pourquoi Paul enseigne encore sur l'enlèvement de l'Église? On a vu tantôt 1 Corinthiens, Paul donne un enseignement sur l'enlèvement de l'Église, et là, il revient encore. Donc, Paul écrit cette lettre, cette deuxième lettre. L'Église est jeune, c'est ça que je vous ai dit tantôt. Elle est persécutée, elle est troublée. Mais après le départ, il y a eu des faux enseignants qui ont commencé à enseigner les chrétiens que les persécutions qu'ils vivaient correspondaient au jugement associé au jour du Seigneur, soit au jugement apocalypse, tic, soit de la fin des temps. Ou que l'Église est enlevée. Et les Thessaloniciens ont cru à ce mensonge. Donc, les chrétiens ont été troublés, ont été bouleversés par ces enseignements, au point que même certains d'entre eux étaient l'objet ils disaient qu'ils étaient l'objet de la colère apocalyptique finale du jugement de Dieu. Donc, qu'ils avaient raté l'enlèvement de l'Église. Et la ruse du diable, c'était de faire éloigner les jeunes chrétiens de la vérité. Et Paul va dire, même à Tite 1:9, de rester attaché à la vraie parole, qu'est telle qui nous a été enseigné afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Paul est au courant. Et Paul est au courant de cette fausse doctrine. Paul, comme un père spirituel, a dû remplacer l'enlèvement de l'Église et de rassurer les nouveaux de l'Église que l'Église n'est pas encore enlevée et que ses jugements ne sont pas encore arrivés. Et Paul va redresser cette erreur doctrinale. Il va leur dire, vous êtes tombés dans l'erreur, l'Église n'est pas encore enlevée. Et non encore, l'Église d'aujourd'hui n'est pas encore enlevée. Et ceux qui vous enseignent que l'Église est enlevée, mais c'est des menteurs. C'est faux. C'est pas vrai. C'est de l'hérésie. Comme nous aujourd'hui, on doit vivre dans cette vérité. Nous sommes pas loin de ça, mais l'Église est encore sur terre. Paul nous cite également, 2 Thessaloniciens 2:2, « Ne vous laissez pas facilement ébranler. » Paul dit bien, « Ne vous laissez pas ébranler et tomber dans le mensonge. Ne soyez pas troublés par ces vos enseignements, comme si le jour du Seigneur est là. » Et Paul va dire, je vais terminer bientôt, là, que personne, 2 Thessaloniciens 2:3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché et de la perdition. Paul explique ici, maintenant, les événements qui annoncent l'arrivée du Seigneur. De ne pas se laisser séduire, comme qu'on a vu, parce que l'apostasie, la fin des temps, n'est pas encore arrivée, mais nous la voyons de plus en plus. Et plusieurs vivent déjà l'apostasie. Et Paul nous avise, quand l'apostasie, la séduction, va se manifester, l'homme de péché va apparaître. Écoutez bien, ça nous parle que la fin est proche. Le mal s'identifie de jour en jour. La ruse, la tromperie, la séduction de tout genre, elle est présente. Paul nous dit, ne laisse-toi pas ébranler par ça. Mais en revanche, il dit, prépare ton cœur, veille, Jésus revient. Paul est clair, sois vigilant. Il y a deux choses qui vont se manifester avant l'enlèvement de l'Église. Premièrement, ce sera l'apostasie qui doit se manifester. Lisons ensemble, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 7, « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ou qu'on ait vu l'homme de péché, le fils de perdition, verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, le mystère de l'iniquité, l'œuvre de Satan, nous savons qu'il est déjà actif. Mais il demeure un mystère dans la mesure que personne ne le connaît. On n'a pas vu sa figure. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il est peut-être là, on ne le discerne pas. Ou... En tout cas, il se prépare, c'est certain. Personne ne le sait. Ça veut dire que l'activité, la puissance, de sa puissance manifeste. Et le mot « apostasie », ça veut dire « partir, dériver ou abandonner ». Dans les derniers temps, dans les derniers jours que nous vivons, beaucoup au sein de l'Église vont se détourner de la vérité. Cette apostasie va emporter deux choses. Et retenez ce que je vais vous dire. Il y aura dans les derniers jours une apostasie théologique. Un détournement, un rejet d'une partie ou de la totalité originaux de Jésus et de ses apôtres. Les faux docteurs vont vous offrir un évangile de grâce bon marché, sans tenir compte de l'ordre qui nous a été donné, dans laquelle que l'homme doit se repentir de ses péchés, de nous séparer de l'immoralité et de demeurer fidèle avec le Seigneur. Si vous me permettez, un évangile qui ne dénonce pas le péché, un évangile qui ne délivre pas la vie des gens, un évangile qui ne change pas la vie des gens, un évangile qui n'apporte pas la maturité, le changement dans votre vie, ce n'est pas un bon évangile. Oh, vous avez manqué une grande chance d'en dire un grand amen. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. La véritable évangile, elle sauve, elle guérit, elle délivre et transforme la vie des gens. L'évangile de la croix, son appel à la souffrance, au renoncement radical au péché, au sacrifice de soi à cause de l'Évangile deviendra chose rare. Nous aimons beaucoup les petits messages, mais les messages qui redressent, qui reprennent, on n'aime pas ça. Dites-moi amen au moins! Vous savez, J'apprends beaucoup dans ceci. J'apprends pour ma propre vie. Je vous prêche, puis je me prêche bien souvent avant vous. Également, il y aura l'apostasie morale. Hébreux 13, 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns n'aient à cœur un cœur mauvais et incrédule au point de vous tourner du Dieu vivant. L'apostasie personnelle peut être traduite par éloigné, rebellier, abandonné. Cette apostasie morale, c'est des chrétiens qui cessent d'être chrétiens. C'est des chrétiens qui divorcent avec le Seigneur. Ils redeviennent esclaves de leur péché. Vous lirez Hébreux. Pierre qui retourne dans leur vomi, tout ça. Une des grandes raisons à cela, c'est que l'homme s'éloigne de petit à petit de la communion avec Dieu. D'autres ne prennent pas au sérieux les vérités de la parole. D'autres ne tolèrent de plus en plus le péché dans leur vie. Ils sont nonchalants et le péché devient... On vit avec. On vit avec. Pas grave, on vit avec ça. Dieu m'aime. Dieu est grâce. Pas de problème. Les cœurs s'endurcissent, puis on ne tient même pas compte qu'un esprit de Dieu frappe à notre cœur. Vous savez, nous sommes encore sur l'ère de la grâce. Êtes-vous chanceux? On est-tu chanceux de dire, Seigneur, on a-tu le temps de se repentir encore? Oh, oui, on a encore le temps, mais faites ça vite. Alléluia. Paul, il dit, je viens, je m'en viens. Jésus dit, s'en vient bientôt. Et je crois. Et quand Paul nous dit, 2 Thessaloniciens 2:8, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut... seulement que celui retient encore disparu. Quand l'apostasie sera à son maximum, c'est là que Jésus va venir chercher son Église. Ce ne sera pas parce qu'il y a eu des tremblements de terre. Ce ne sera pas parce que M. Trump est en train de virer la planète sur la terre. Ce ne sera pas ça qui va faire la différence. La différence, c'est quand l'homme croira plus en son Dieu que les chrétiens vont divorcer avec Dieu en masse. Il dit, quand tu verras ces choses-là, il dit, fais attention, ça s'en vient. Puis nous sommes pas loin d'être là. Je suis plus que convaincu que nous avons besoin de faire du ménage dans nos vies. C'est le temps de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Pas juste, Seigneur, te non, tu lui donnes tout ce matin. Tu dois comprendre, tu dois veiller, te préparer, te purifier. Jésus nous dit qu'il vient comme un voleur. Thessaloniciens, dernier verset 5, 2 et 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous se prenne comme un voleur. Voyez-vous la différence? Celui qui est prêt et celui qui n'est pas prêt. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes avec le cœur de Jésus. Quand nous parlons de celui qui le retient, nous parlons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit disparaîtra au commencement des 7 années de tribulation où que l'ennemi va commencer à faire son rabuge. Et donc, si toi, tu persévères, inquiète-toi pas pour ta vie, tu vas partir. Mais si tu ne prépares pas, attention. Tu as entendu ce matin. Es-tu prêt? Tu as entendu. Es-tu prêt? C'est pas le temps de jouer à l'Église, c'est le temps d'être la véritable Église. Il y a des gens qui vont perdre ce précieux moment, qui vont vivre la grande tribulation. Vous lirez Apocalypse chapitre 6. Mais la bonne nouvelle, si on est prêt, on ne vivra pas ça. Si tu ne te prépares pas, attention. Ce matin, tu as entendu. Combien sont prêts à dire avec moi honnêtement, « Seigneur, encore du ménage à faire. » Il n'y a pas personne un matin là, assez d'orgueilleux pour dire « Je suis parfait. » OK, là? Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Alléluia! On va se lever ensemble ce matin. Je vais demander aux musiciens s'ils puissent s'approcher. Alléluia! On doit apprécier ces messages. Le retour de Jésus s'en vient. Les temps sont mauvais. Vous le voyez comme moi. Le monde entier est chamboulé dans ce temps-ci. Tout le monde est sur le gros nerf. Il disait que les grosses compagnies, là, je ne sais pas combien de milliards et de milliards qui partent par jour dans le commerce. L'insécurité. Quand les hommes crieront paix, paix et sécurité. Vous ne voyez pas, ça commence à sonner un peu comme ça. Que l'immoralité, elle est partout. Je vous ai dit la dernière fois que que le sexe, la porno remporte plus que le budget américain. C'est pour ça que Trump a besoin d'argent. Alléluia. Va être sérieux, là. Voyez-vous jusqu'à quel point que Jésus nous avertit qu'à la fin des temps, voici qu'est-ce qui s'en vient. Trouvez pas que c'est le temps de l'évangélisation. Trouvez pas que c'est pas le temps d'avertir la vie des gens. C'est notre mission première. Hein? On aura beau vous donner des messages, des messages, des messages, des messages, des messages. Mais si vous n'êtes pas des participants de la bonne nouvelle, on est juste des chrétiens. Mais si tu es en feu, tu aimes Jésus, tu vas parler de ton Jésus. Tu vas prendre le temps d'avertir. Ce matin, je vais faire un appel en disant, Seigneur, change mon cœur. Je veux m'approcher de toi. Je veux vivre une vie consacrée pour toi. Cette semaine, dans des temps de jeûne et de prière, je disais toujours, Seigneur, l'Église, c'est qu'est-ce qui est de plus merveilleux. Mais on comprend mal ton royaume. On comprend mal la mentalité du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de retrouver l'amour de Jésus, le royaume de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi ce matin, je ne suis pas mieux de vous, là. Je suis dans la même galère que vous. J'ai besoin de me rapprocher du cœur de Dieu.
Amen. Alléluia.
15 minutes, passe une demi-heure. Passe une demi-heure, passe à une heure. Donne le temps à Jésus. Ferme la TV, ferme ton Facebook, ferme ton téléphone. Arrête de te préoccuper du monde. Préoccupe-toi du cœur de Dieu. Préoccupe-toi qu'est-ce que Jésus veut pour toi. Amen.